France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est l'urgence absolue du moment, le projet de loi pour la reconstruction de Mayotte. Le texte a fini par être présenté ce matin au Conseil des ministres, on fera le point dès le début de ce journal. Quand Jean-Marie Le Pen continue de diviser le pays après sa mort, son décès hier a provoqué des célébrations dans tout le pays, condamnées par son parti, mais aussi le gouvernement. Ses obsèques se tiendront finalement samedi prochain dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, avec notre invité aujourd'hui, le politologue Pascal Perrineau. On parlera de l'héritage de la figure historique de l'extrême droite française. Enfin, l'actualité à l'étranger. On reviendra notamment sur la décision de Meta de cesser ses opérations de fact-checking aux États-Unis, de quoi marquer un recul majeur de la modération des contenus sur les réseaux sociaux, et ce, à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. Lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Bayrou, c'était vendredi dernier, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait demandé de l'audace. Et nul doute que moins d'une semaine plus tard, les consignes n'ont pas changé. Ce matin se tenait donc à l'Élysée le second Conseil des ministres de l'année, avec notamment à l'ordre du jour la présentation du projet de loi pour la reconstruction de Mayotte. Un texte censé déroger pendant 2 ans aux règles d'urbanisme, mais déjà critiqué par plusieurs élus qui lui reprochent en particulier de ne pas s'attaquer aux bidonvilles. Rosalie Lafargue, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce projet de loi devrait donc passer en commission lundi prochain, jour de la reprise de l'activité à l'Assemblée avant un examen en séance prévu le 20 janvier.
Oui, un texte en 22 articles, coût évalué à plusieurs centaines de millions d'euros et une philosophie générale défendue par le ministre des Outre-mer.
Permettre la mise en œuvre très rapide de mesures urgentes pour faciliter l'hébergement et l'accompagnement de la population, ainsi que la reconstruction ou réparation des infrastructures et logements sinistrés.
Mais le même Manuel Valls l'assume comme une réponse aux premières critiques qui émergent et dont vous parliez. Cette loi, dont la présentation a été repoussée de quelques jours pour la compléter, reste imparfaite.
Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville. Il nous faudra réfléchir, par exemple, à élargir les catégories d'agents pouvant constater l'édification illégale. Deuxièmement, le blocage temporaire des loyers doit être envisagé pour qu'à l'horreur du cyclone ne s'ajoute pas l'indignité de profiteurs de crise.
Charge au Parlement donc d'amender ce texte, le premier avant un autre, promis dans les 3 mois par le gouvernement et qui s'attaquera cette fois à des sujets plus structurels comme celui de l'immigration illégale, Manuel Valls.
Si nous ne traitons pas cette question avec la plus grande détermination, tout ce que je viens de vous annoncer ne servira pas à grand-chose et nous pouvons alors à ce moment-là nous attendre une véritable implosion, explosion sociale ou d'autres natures sur le territoire.
Et quel que soit le contexte, quelles que soient les éventuelles nouvelles crises, nous ne laisserons pas tomber Mayotte, promet encore le ministre, sans ignorer que rien ne garantit à ce stade et pour les 3 prochains mois le maintien du gouvernement auquel il appartient.
Merci Rosalie Lafargue. Et que dire à présent de la Nouvelle-Calédonie meurtrie l'an dernier par 6 mois de tensions insurrectionnelles qui ont mis à terre l'économie de l'archipel français du Pacifique Sud. Ce matin, le nouveau gouvernement de l'île a désigné sans surprise son président, un non-indépendantiste. Alcide Ponga, le tout premier Kanak à occuper cette fonction, âgé de 49 ans. L'élu a effectué une bonne partie de sa carrière dans la mine, un secteur aujourd'hui en grande difficulté, mais qui reste toujours le premier pourvoyeur d'emplois privés. Problème, le gouvernement, lui, n'est toujours pas opérationnel. La répartition des portefeuilles n'a pas encore fait l'objet d'un consensus pour être partagé entre ses 11 membres. Les discussions sont toujours en cours.
Comment rendre compte de la mort d'un homme qui, bien que controversé, aura marqué de son empreinte la vie publique pendant plus d'un demi-siècle.
On se sera longtemps demandé comment les uns et les autres réagiraient le jour de la mort d'un monstre politique tel que Jean-Marie Le Pen. Et de fait, hier, la nouvelle de sa disparition aura mis pas mal de monde dans l'embarras. Difficile forcément de garder le silence, alors comme attendu, l'extrême droite a loué son grand homme. À l'inverse, la gauche, loin de relativiser les défauts du père honteux du Front National, n'a pas manqué de rappeler combien l'homme condamné à plus de 15 reprises pour provocation à la haine et à la discrimination ethnique était un dangereux démagogue, extrémiste, raciste, antisémite et homophobe. Quant à la droite et au centre, ils sont restés beaucoup plus ambigus quand le Premier ministre François Bayrou reconnaît une figure de la vie politique française, le président Emmanuel Macron, sans prendre parti sur le fond, évoque lui une figure historique de l'extrême droite qui relève désormais du jugement de l'histoire. Alors ce malaise flagrant s'est diffusé partout et jusqu'à l'organisation de ses obsèques. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Même s'il ne croyait pas à des hommages grandioses, Jean-Marie Le Pen aurait sans doute rêvé des obsèques ouvertes à ses admirateurs. Finalement, elles se tiendront dans l'intimité, dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer. Preuve, Antoine, que parmi les conséquences de la mort de Jean-Marie Le Pen figure un vrai enjeu politique où comment s'arranger avec une photo de famille décidément encombrante.
Oui, l'intimité familiale à la Trinité-sur-Mer ou alors une cérémonie parisienne plus ouverte. Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. Pour les obsèques de samedi, ce sera donc à la Trinité, rite tridentin, c'est-à-dire messe traditionnaliste en latin. Les proches au sens large pourront profiter des 200 places que compte l'église. Le cercueil de Jean-Marie Le Pen sera ensuite emmené jusqu'au cimetière qui se trouve à proximité. Il sera enterré dans le caveau familial, là où reposent notamment ses parents. Mais une autre cérémonie religieuse, plus massive, devrait se tenir à Paris. On ne connaît pas encore son lieu ni sa date. Parmi les noms qui circulent, il y a l'église Saint-Roch, Saint-Sulpice ou encore la Madeleine. Une cérémonie qui embarrasse au Rassemblement National car elle pourrait attirer la vieille garde du FN des années 80 bien avant la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Des membres de groupuscules d'extrême droite, voire d'ultra-droite, pourraient également venir rendre hommage à cette occasion à Jean-Marie Le Pen. Le créateur du Front National ne voyait pas d'un mauvais œil la présence de crânes rasés lors de fêtes de Jeanne d'Arc. Et ces derniers pourraient être tentés de célébrer sa mémoire devant les objectifs des caméras. Ce qu'il rappellerait que le Rassemblement National a des origines bien éloignées de l'image lisse que ses dirigeants actuels souhaitent promouvoir.
Merci Antoine Marette. Et pour continuer d'évoquer la disparition hier, donc à l'âge de 96 ans de Jean-Marie Le Pen, invité à présent de la rédaction Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po et ancien directeur du CEVIPOF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas.
Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a jugé honteuse les scènes de liesse de plusieurs centaines d'opposants à Jean-Marie Le Pen rassemblés dans une ambiance festive dans plusieurs villes de France. Dans quelle mesure le Rassemblement National lui-même n'éprouve pas lui aussi au moins une forme de soulagement avec la disparition de ce patriarche renié, exclu du parti en 2015?
En effet, on peut considérer que la mort de Jean-Marie Le Pen est un élément d'une stratégie de dédiabolisation que sa fille a commencé en 2012, après que son père lui ait passé le relais lors du congrès de Tours de 2011. Donc d'une certaine manière, on le voit bien, Jean-Marie Le Pen, ses dérapages réguliers, ce retour du refoulé antisémite, tout ça a beaucoup dérangé la stratégie de dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen. Là, au fond, la parole de Jean-Marie Le Pen part avec la mort du leader du Front National. Il n'encombrera plus la scène par ses propos déplacés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, au travers de la marque Le Pen, quelque chose qui reste du passé du père dans le parti de la fille.
Question de Stéphane Robert.
Précisément, on se souvient tous du 21 avril 2002, de la stupeur qui avait saisi le pays tout entier avec la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac, des gigantesques manifestations qui s'étaient tenues dans toute la France. C'était il y a 22 ans, bientôt 23 ans, autrement dit, il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on explique notamment le regard différent que porte aujourd'hui la société française sur le Rassemblement National?
Souvenez-vous, en 2002, la presse titrait « tsunami, tempête ». On avait l'impression d'un phénomène exceptionnel. Jean-Marie Le Pen faisait 17% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, Marine Le Pen a dépassé les 41% de suffrages au second tour de la dernière présidentielle. Et à l'heure actuelle, les enquêtes montrent qu'elle pourrait gagner la prochaine élection présidentielle. Et c'est devenu la première force politique française. Donc énormément de choses, en effet, se sont passées. Qu'est-ce qui a permis cet envol à partir de 2012, parce que c'est en 2012 que ça commence, et puis ensuite ça s'accentue en 2017, encore en 2022, et ça continue jusqu'en 2024 avec les élections européennes et les dernières élections législatives que l'on a connues. C'est la stratégie de dédiabolisation, parce qu'au fond, quand on rencontrait Jean-Marie Le Pen, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et j'ai eu un long échange avec lui à un moment, au fond, en 2002, il le disait, Il me l'avait dit, il m'avait dit, mais on n'était absolument pas prêt, j'étais entouré de tocards, rien n'était prêt. C'est moi qui ai pris mon stylo pour faire le fameux discours, vous, les petits, les sans grade, où il appelle l'électorat de gauche entre les deux tours pour essayer d'améliorer son score du premier tour. Et au fond, on sentait au travers du jugement qu'il portait sur cette période qu'au fond, le pouvoir ne l'intéressait pas. Mais d'être celui par lequel le scandale arrive, ça, ça lui faisait plaisir. Ça lui faisait plaisir. Vous savez, Claude Chabrol, qui l'avait très bien connu dans sa jeunesse, dans les chahuts du Quartier Latin, disait, au fond, ce qui caractérise Jean-Marie Le Pen, c'est que c'est un fouteur exceptionnel de M, avec des petits points derrière. Voilà. Et c'est vrai qu'il il en éprouvait un profond plaisir de scandaliser, ce qui nous scandalisait, nous, dans l'opinion publique, parmi les électeurs, les journalistes, les observateurs, les intellectuels, etc. Lui, ça le faisait bicher. Il se disait, une fois de plus, le système est choqué, et choquer le système, ça, c'était pour lui très important.
On comprend bien qu'à ce titre, ses potentiels héritiers ne souhaitent pas son héritage. Pour autant, certaines choses survivent, et en particulier cette mécanique du populisme.
Mmh. Oui. Alors en effet, c'est lui qui l'a initié. Parce qu'au fond, dès, par exemple, la présidentielle de 1995, il comprend quelque chose. Il comprend qu'il faut qu'il s'émancipe de l'extrême droite, qu'il aille vers d'autres horizons. Et en particulier, qu'il arrive à être le porte-parole du malaise des couches populaires. Pas simplement en France, mais lui, il est en France. Et il se dit, les couches populaires sont inquiètes. Elles sont inquiètes devant la globalisation et ses effets, tous azimuts, les fermetures d'entreprises, les problèmes d'emploi, les phénomènes de déclassement, de régions qui disparaissent, en effet, des radars. Je pense en particulier au Nord-Pas-de-Calais, qui va devenir une grande région du Rassemblement national, alors que ça ne l'était pas du tout lorsque le Front national a percé dans les années 80. Et là, il comprend que le clivage essentiel n'est plus le clivage entre la gauche et la droite, avec ses extrêmes, extrême gauche, extrême droite. C'est le clivage entre le camp de ce que j'avais appelé, moi, la société ouverte et la société fermée. C'est-à-dire les gens de droite et de gauche qui se disent « on a tout à gagner à l'ouverture ». Qu'elle soit économique, culturelle, etc. Et ceux qui se disent « Ah, l'ouverture, nous, on en voit surtout les inconvénients. Les entreprises qui s'en vont, notre manière de vivre qui s'étiole, le fait qu'on ne se sent plus chez nous. » Vous savez, c'est quelque chose que l'on entend toujours dès qu'on va dans les meetings du Rassemblement National. « Nous sommes chez nous. » Bien. Ce sentiment d'insécurité culturelle, comme l'aurait dit il y a quelques années un autre politiste, maintenant disparu, elle Laurent Bouvet. Et il va être le porte-parole de ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, alors là, on change complètement de catégorie. Parce que l'extrême droite, ça ne vous amène pas à des 30-40%. Il faut, en effet, devenir un phénomène populiste, un phénomène national populiste.
Diriez-vous, symboliquement, que sa mort constitue une étape importante de l'histoire politique
oui.
du pays ?
Oui. Oui, oui, bien sûr. C'est une étape importante parce qu'il y avait l'ombre de Jean-Marie Le Pen. Cette ombre perdurera, mais elle n'aura plus le poids écrasant qu'elle avait jusqu'à une date extrêmement récente.
Merci Pascal Perrino, professeur des universités à Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Stéphane Robert, ainsi qu'à Aline Biette pour la préparation.
Midi et 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Un mois, jour pour jour, après que les rebelles islamistes ont renversé le président Bachar el-Assad, le complexe puzzle syrien se reconstruit difficilement, en particulier depuis que les nouveaux maîtres de Damas ont dévoilé une partie de leur agenda de nature à questionner les gages d'ouverture et de stabilité derrière le vernis de l'islamisme modéré. Seule certitude, c'est vrai que l'instauration d'une Syrie post-Assad aura au moins ouvert de nouvelles possibilités d'action pour les ONG, qui n'ont d'ailleurs jamais cessé véritablement d'apporter leur aide, y compris d'ailleurs après 2011 et la mise en place de sanctions internationales. C'est le cas en particulier de Médecins du Monde. L'association opérait dans le pays de façon informelle via des contacts locaux. Dorénavant, elle va pouvoir intensifier et surtout formaliser ses actions dans ce pays qui manque aujourd'hui de tout. Je vous propose d'écouter le président de MDM, Jean-François Corti, joué en téléphone par Marie Viennon.
Ça a été ces sanctions économiques un frein pour le développement de l'aide, mais les acteurs humanitaires ont pu procéder sur des modes opératoires alternatifs, soit en intervenant dans des zones rebelles, et vous savez, le pays est largement fractionné, soit en intervenant de manière informelle via des partenariats. locaux et nous allons continuer de manière plus formelle. Ça veut dire pouvoir faire entrer du matériel médical, des soutiens aussi d'expatriés aux équipes présentes localement de manière plus organisée, moins risquée, en lien avec des autorités, on va dire, légitimes. C'est faire de la consultation de médecine générale dans des centres de santé de proximité, que ce soit pour les déplacés qui sont encore sous des tentes, que ce soit dans des centres de santé en dur, c'est insister donc sur la santé primaire, on le sait, sur l'accès aux soins des femmes et des enfants. Voilà, et c'est essayer de contribuer à redynamiser un système de santé qui a été fortement impacté par près de 15 ans de conflit. Il va falloir rapidement considérer que les sanctions économiques doivent bouger.
Le président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, était joint au téléphone par Marie Viennot. Dans le second hiver de la mort à Gaza, les frappes israéliennes ne connaissent aucun répit. Au moins 51 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à près de 46 000 le nombre de morts dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre de représailles de l'État hébreu déclenchée après l'attaque du 7 octobre.
Quand la tech américaine se met décidément en ordre de marche derrière Donald Trump.
Hier, Mark Zuckerberg a cédé à son tour à la conception radicale de la liberté d'expression défendue par le président élu, mais aussi son désormais inséparable allié multimilliardaire, le très libertarien Elon Musk. Le fondateur de Meta et ses applications Facebook, Instagram, WhatsApp a en effet annoncé un virage majeur, la fin de son programme de vérification des faits, fact-checking aux États-Unis. Alors qu'est-ce que Mark Zuckerberg a gagné en brossant ainsi Donald Trump dans le sens du poil? Réponse avec Romain Badoir, il est enseignant-chercheur à l'université Paris-Panthéon à Assas.
Derrière cette décision de Mark Zuckerberg, il y a plus qu'un revirement idéologique, à mon avis, quelque chose de l'ordre de la protection des intérêts financiers de la firme. L'intérêt de Mark Zuckerberg pour Meta, c'est de réussir à amadouer Trump, à la fois sur le dossier des réglementations européennes pour lesquelles il va avoir besoin de son soutien, aussi sur la question des relations internationales, diplomatiques avec la Chine. Donc, les grands patrons de la tech, en fait, ont quand même tout intérêt à être dans les petits papiers de Trump pour sauvegarder leurs intérêts financiers qui sont très importants. On ressent aussi, à travers la déclaration de Mark Zuckerberg, un ras-le-bol quelque part, des pressions non pas du camp Trump, mais plutôt du camp démocrate. On sait que le camp démocrate est un camp qui était pro-régulation, voire pro-démantèlement, et peut-être aussi une forme d'alignement sur l'état actuel de la société américaine, qui est au final plutôt en faveur d'une déréglementation de la parole publique, plus de liberté d'expression, quitte aussi à consacrer une forme de retour de la parole d'extrême droite dans le débat public.
Alors Romain Badoir, donc enseignant-chercheur à l'université Paris-Panthéon, Assas au micro d'Héloïse Roger. Alors face aux attaques frontales de la Big Tech américaine, l'Union européenne a-t-elle les moyens de tenir le choc, des moyens notamment législatifs, mais pas seulement la volonté politique également? Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, on évoquait à l'instant le virage pris donc par Mark Zuckerberg. En réalité, c'est surtout Elon Musk qui a tendance à s'immiscer, lui, aujourd'hui, le plus dans les débats politiques européens. On se souvient que le mois dernier, il avait créé la polémique en affichant son soutien au parti d'extrême droite allemand AFD. Et puis plus récemment, il s'en est pris au Premier ministre britannique considéré comme méprisable. Et en face, côté européen, donc, eh bien, assez curieusement, Fabien, les réactions se font généralement attendre.
Oui, pas de réponse, hein, ou presque. Parmi les dirigeants européens, il n'y a guère qu'Emmanuel Macron qui a réagi avant-hier dénonçant l'international réactionnaire promu par Elon Musk sur son réseau social X. Mais au niveau européen, silence radio, il y a pourtant effectivement des règlements, hein, comme l'a rappelé encore ce matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui permettent de lutter contre les ingérences étrangères. Encore faut-il les caractériser juridiquement et faire la différence entre ingérence et expression d'une opinion personnelle. Évidemment, celle d'Elon Musk, patron de X, futur poids lourd de l'administration Trump, pèse. Attaquer Musk, c'est aussi attaquer Trump, et on touche là un point sensible. Les dirigeants européens ne veulent surtout pas fâcher le prochain président américain à moins de 2 semaines de son investiture. Il se fait déjà menaçant sur le maintien des États-Unis dans l'OTAN ou sur de possibles relèvements de droits de douane. Une stratégie de pression multiforme qui semble donc pour l'instant empêcher une expression position commune des 27, d'autant que certains dirigeants, comme l'Italienne Meloni ou le Hongrois Orban, revendiquent ouvertement de leur côté leur proximité idéologique avec Donald Trump, sans compter ceux qui espèrent qu'Elon Musk, patron de Tesla par ailleurs, pensera à eux lorsqu'il décidera d'ouvrir de nouvelles usines en Europe.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Sombre, gris et pluvieux sur la majeure partie du pays. 5 départements du Nord ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. Le quart sud-est devrait conserver un ciel sec et lumineux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 3 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.